France Culture.
Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans 12 France.
Nos vies, nos habitudes, nos paysages, nos logements, nos emplois sont aujourd'hui menacés par les conséquences croissantes du dérèglement climatique. Face à cette situation, je refuse le fatalisme. Les solutions existent pour s'adapter et ces solutions doivent être déployées maintenant. Aujourd'hui, baisser les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au dérèglement climatique, c'est donc agir de manière rationnelle pour économiser de l'argent public, pour protéger la santé des Françaises et des Français, pour protéger leur patrimoine, pour protéger leur emploi. Nombreux experts économiques le démontrent étude après étude. Le coût de l'inaction est bien moins important que celui est bien moins important que celui de l'inaction. 1 euro investi dans l'adaptation, c'est 8 euros évités pour la réparation.
C'était il y a une semaine, Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'écologie, présente avec un an de retard le plan d'adaptation de la France au changement climatique. Un plan qui prévoit des paliers jusqu'à atteindre plus 4 degrés en 2100. Parmi les 52 mesures présentées qui débutent par mobiliser, accompagner ou encore assurer la résilience, la mesure 21 prévoit de préserver la ressource en eau face au changement climatique, soit renforcer le plan eau. Le plan eau, un programme lancé par le président de la République en 2023 sur les berges du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes, asséché par une sécheresse historique, qui prévoit un plan d'action pour une gestion sobre, résiliente et concertée de la ressource en eau, notamment pour gérer le partage des usages et la multiplication des épisodes dits de stress hydrique. En 2023 et 2024, il y eut donc des journées One Water, un plan Riout et un One Water Summit, et 100% des mesures engagées selon le ministère de l'Écologie. Pourtant, la France continue de perdre près d'1 milliard de mètres cubes chaque année, soit 20% de sa production annuelle, à cause d'infrastructures hors d'âge. C'est pire encore dans les Outre-mer, où des tours d'eau sont organisés parfois entre les populations. Seul 1% des eaux usées sont aujourd'hui réutilisées, contre 14% en Espagne. Et en mars 2023, la bataille de Sainte-Soline autour de la création de méga-bassines controversées dans les Deux-Sèvres a révélé à quel point la question du partage de cette ressource devenait un enjeu explosif et collectif. À la veille de la Journée mondiale de l'eau et 60 ans après la promulgation de la première loi eau, doit-on repenser notre gouvernance? Peut-on faire face à la catastrophe annoncée grâce aux innovations technologiques quand sécheresse, inondation, submersion, retrait du trait de côte accélère la raréfaction ou la pollution des nappes et cours d'eau? Au sommaire de 12 France, du Rhône à la Loire, gouverner l'eau en commun. Venez, je vous emmène. Bonsoir Christophe Defeuillet.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, chercheur associé au Centre d'études européennes et de politique comparée et enseignant à l'École urbaine de Sciences Po Paris. Vous avez publié « La politique publique de l'eau, gouverner un bien commun ». Ça a apparu aux éditions Le Bord de l'eau, justement, en 2024. Bienvenue à vous.
Merci.
Et en duplex avec nous depuis Toulouse, Sarah Fernandez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, chercheuse à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, au sein du labo Agir à Toulouse. Vous avez co-dirigé avec Rémi Barbier « Idées reçues sur l'eau et sa gestion » aux éditions Le Cavalier Bleu, qui est apparu en 2024 également. Bienvenue à vous. On entendait à l'instant cette Agnès Pannier-Runacher annonçait justement ce plan d'adaptation au changement climatique avec cette mesure sur préserver la ressource en eau face au changement climatique et renforcer le plan eau. Qu'est-ce que ça veut dire, Sarah Fernandez? Renforcer le plan eau, est-ce que ça peut suffire?
Alors, déjà, je pense que ce plan eau, il incarne toute la polysémie qu'il y a dans le terme de sobriété. C'est-à-dire qu'à la fois, pour certains, c'est un nouveau mot d'ordre pour parler d'efficacité, sans remettre en question vraiment la croissance ou le modèle économique. Pour d'autres, c'est plutôt s'opposer à une idéologie, justement, de l'innovation qui ne tient pas ou plus ses promesses et qui génère quand même beaucoup de dégâts. Et donc, plutôt autour de l'idée de frugalité, de tempérance, de solutions low-tech, pour faire face à des contraintes matérielles. Et comme vous le disiez bien, certaines sont héritées, anciennes, et d'autres sont nouvelles et apportées par le nouveau régime hydroclimatique, quelque part. Et la difficulté, c'est bien que, contrairement aux scénarios et modélisations sur la production d'eau, que ce soit pour la rendre plus efficace ou plus circulaire, ben, la sobriété, elle est peu outillée ou représentée.
Pourtant, elle est centrale dans le plan eau qui avait été présenté par le président de la République.
Alors, ben, justement, je pense que penser des usages plus sobres, ça demande de mettre en débat le bien fondé de ce qui est fait avec l'eau. Et donc, davantage de se poser la question des logiques d'aménagement de l'espace qui vont travailler la circulation et la qualité de l'eau, ou encore la question des modèles agricoles, industriels ou énergétiques, même de transport, hein, d'ailleurs. Et donc, si c'est sûr que il y a bien un enjeu à mieux suivre les prélèvements ou les restitutions d'eau dans les milieux, il y a aussi d'autres enjeux, par exemple l'eau qui tombe sur les territoires et qui va s'infiltrer plus ou moins facilement, qui est consommée par les plantes, qu'elles soient cultivées ou pas. Et donc ça, ça peut amener à revoir comment on quantifie et objective les choses, mais peut-être surtout à rendre plus lisible le système d'acteurs, des règles, d'institutions... Et moi, même les mécanismes d'accumulation de capital en jeu.
Oui, on y reviendra sur cette dimension-là, Sarah Fernandez. Christophe Defayet, pourquoi est-ce qu'il est si important? Pourquoi est-ce que dans cette logique voulue par le président de la République quand il l'a annoncé, cette question de la sobriété était à ce point central? Est-ce que véritablement, c'est le levier principal?
Alors, sur la sobriété, le mot effectivement est très, très polysémique. Ce qui est central, je pense, c'est qu'on est en train de changer complètement de paradigme sur la question de l'eau, parce que on a pendant des décennies été dans une situation où on avait suffisamment d'eau et on se posait pas le problème de la pénurie potentielle d'eau. Ça change complètement avec le changement climatique, l'évolution des cycles de l'eau, et ça nécessite de repenser totalement la politique publique de l'eau. Donc on est vraiment dans ce cadre-là, et il faut voir le plan eau du gouvernement, qui est probablement très très insuffisant, comme étant un début de réponse de quelque chose autour de cette évolution-là. Sachant que il y a beaucoup d'autres initiatives, notamment des initiatives locales, qui sont prises, avec des acteurs qui poussent à ce qu'il y ait ces changements, et qu'on prenne vraiment en compte le long terme, et le fait qu'on va avoir des problèmes d'eau de plus en plus importants en France. On commence à en avoir. On va en avoir de plus en plus. Et ça va être de plus en plus inquiétant pour un certain nombre de personnes et pour un certain nombre de secteurs économiques. Donc c'est vraiment un enjeu central, il me semble.
Ce que vous nous dites, c'est que cet enjeu central aujourd'hui, il implique une prise de conscience. Alors, il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, le président de la République est sur le lac de Serre-Ponçon, un des plus grands lacs artificiels d'Europe, qui est né d'une retenue et d'un barrage. Un lac qui était quasi complètement asséché. C'était l'été 2022. Et depuis, cette question, elle est absolument... elle occupe une partie des collectivités régulièrement. Et pour cela, pour se poser la question justement de ce lien entre collectivités, entreprises et acteurs de l'eau, j'ai appelé Olivier Sarlat. Olivier Sarlat est directeur de la région sud de Veolia sur l'activité eau et président d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Aquavallée. Ce pôle fédère un réseau de 250 adhérents, donc des entreprises, des organismes de recherche, de formation ou encore des associations qui sont principalement localisées en région Occitanie et en région sud. Et ça représente notamment l'une des plus fortes concentrations de chercheurs et d'entreprises qui travaillent sur la question de l'eau. Et je lui ai demandé justement si on était prêt.
Aujourd'hui, l'eau en France, on en parle pour parler des choses qui ne vont pas. Mais il y a plein de choses qui vont bien. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une eau de qualité et en quantité, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Par contre, c'est vrai que du fait de cette eau qui peut nous sembler abondante, les gens ont encore du mal à se projeter sur les infrastructures qui vont devoir être réalisées pour pouvoir adapter les territoires, les départements au manque d'eau à venir. Parce que quelque part, on a encore des problèmes de riches au niveau de l'eau en France du fait des quantités qui sont encore aujourd'hui disponibles. Par contre, ce que l'on sait très bien, et là on fait des sondages au niveau des Français, et ils ont conscience malgré tout de ce changement climatique et qu'il va être nécessaire de réaliser d'ores et déjà des investissements aujourd'hui pour éviter que cela nous coûte beaucoup plus cher le jour où véritablement on sera dans le mur. On peut prendre l'exemple de nos collègues espagnols qui ont mis en place des systèmes autour de la réutilisation des eaux usées traitées à très très grande échelle, voire même de dessalement d'eau de mer. Et c'est vrai que ça, ils l'ont mis en place depuis plus de 15 ans. Malgré tout, quand on discute avec eux, on leur dit « Mais comment avez-vous fait pour avoir cette anticipation ?» Ils nous disent « Mais vous savez quoi, on a pris le mur. » Et une fois qu'on a pris le mur, il a fallu qu'on se retrousse les manches et qu'on mette en place les outils nécessaires pour assurer l'adaptation de nos territoires aux problématiques de manque d'eau. Et nous, ce qu'on essaie au niveau d'Aqua Valley, humblement, c'est pour accompagner les collectivités, pour leur dire « Attention, voilà, le mur va arriver, il faut d'ores et déjà s'emparer du sujet, parce que les investissements que nous serons obligés de faire au moment où nous aurons frappé le mur coûteront beaucoup plus cher que ceux que l'on peut anticiper dès maintenant. »
Et donc, de manière très concrète, par exemple, en Espagne, quand vous parlez de ces investissements, ça a été quoi ?
Un exemple très concret. Si vous prenez la station d'épuration de Baix de Llobregat, qui traite les eaux usées de quasiment 2 millions d'habitants sur la partie ouest de Barcelone, cette eau usée était traitée sur la station d'épuration et puis après rejetée en mer après traitement. Et du fait de cette problématique de manque d'eau, ils se sont dit non, mais cette eau-là, en fait, elle peut avoir une seconde vie. On va la régénérer quelque part. Et donc, en sortie de station d'épuration, ils ont mis en place des traitements de type membranaire pour produire une eau ultra pure qui est aujourd'hui utilisée pour trois usages. Le premier usage, en fait, c'est qu'il renvoie cette eau ultra pure en amont sur la rivière Llobregat, dans laquelle après il y a une station de production d'eau potable pompe pour pouvoir alimenter les Barcelonais en eau potable. Donc en gros, vous avez 50% de cette eau ultra pure qui arrive de la station d'épuration et 50% de l'eau qui arrive de l'amont de la rivière. Un autre usage, ils ont utilisé cette eau ultra pure pour pouvoir réinjecter cette eau ultra pure dans les nappes souterraines sous Barcelone, nappes souterraines en fait qu'ils avaient surexploitées, et du fait de cette surexploitation, en fait, l'eau méditerranéenne avait commencé à rentrer, c'est ce qu'on appelle le biseau salé, dans les nappes d'eau potable. Donc ça a permis de regonfler la pression, de remettre de l'eau et de repousser le sel qui arrivait de la mer. Et le dernier usage, cette eau a été mise aussi à disposition des zones humides et des agriculteurs, en disant bien aux agriculteurs, voilà, nous vous mettons à disposition cette eau, arrêtez de pomper dans les nappes souterraines. Après, il reste à se dire que Barcelone est touchée aussi de plein fait par le changement climatique. On sent bien que tout cela va remonter du sud vers le nord de la France dans les années à venir. Mais avant d'en arriver là, il y a plein d'autres choses qui doivent être mises en place pour pouvoir préserver la ressource en eau.
Voilà, c'était Olivier Sarlat, le directeur de Veolia dans le Sud et par ailleurs président du pôle de compétitivité Aqua Valley. Il nous dit finalement, Christophe Defeuillet, qu'on a des problèmes de riches en France parce que quand on ouvre le robinet, l'eau, elle coule encore.
Bah heureusement.
Heureusement. Mais oui, mais, cool, mais... est-ce faudra-t-il, comme les Espagnols, qu'on se prenne un mur pour anticiper et prendre en charge justement les investissements nécessaires?
On a déjà des problèmes qui sont devant nous en France. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir une situation à l'espagnol, sachant que effectivement les Espagnols ont une situation qui est encore plus difficile que la nôtre. Mais non, il faut prendre en compte les questions comme elles arrivent et il faut essayer de les traiter maintenant, sachant que ce qui sous-tend un peu le discours de ce monsieur, c'est de Veolia, c'est le fait que en fait on va pouvoir traiter tous les problèmes avec de la technologie nouvelle. Et qu'il suffit en fait de rajouter des membranes, il faut rajouter des systèmes de réutilisation de l'eau, il faut rajouter ceci et cela pour traiter la question de l'eau, et que finalement on est un peu dans une situation où on traite le problème en bout de course et ça va permettre de résoudre la situation.
C'est quoi ? C'est une forme de technosolutionnisme ?
Ouais, c'est ça. Et puis c'est pas forcément très pertinent, ou en tout cas, c'est pas la seule solution qu'il faut
aborder. Oui, mais ça fait partie de la solution.
Ça fait partie de la solution dans certaines situations, dans certains cas, etc. Mais par contre, ce qu'il faut surtout pas faire, à mon avis, c'est de se dire, on a les solutions techniques qui vont arriver, donc ça sert à rien de s'occuper de la ressource, ou de dire il faut la préserver, ou il faut faire de la sobriété, où il faut préserver les milieux naturels. Donc ça, ce serait vraiment catastrophique, à mon avis. Mmh. Donc il faut vraiment faire attention à ça. On a aussi ça dans l'énergie, on a ça dans plein de secteurs. Les solutions techniques, c'est une partie de l'équation. Bon, il ne faut pas attendre...
Il ne faut pas attendre que la technologie nous sauve. Voilà, Sarah Fernandez, vous êtes d'accord? Même si en, en l'état, elle va quand même permettre, peut-être, en termes de réutilisation, de faire des progrès. On réutilise seulement 1% des eaux usées. L'Espagne, c'est 14%. Par ailleurs, il y a des pays dans le monde, je pense notamment à l'Australie, où vous êtes tenu d'avoir des systèmes de récupération d'eau de pluie, tout individu. Voilà. Enfin, c'est... Donc, on a quand même un peu de progrès.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça, dans la mesure où, si vous voulez, il faut aussi considérer que de toute façon, toute innovation technologique, ça demande un énorme travail, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, le risque, je pense, c'est de penser que, voilà, les innovations institutionnelles, c'est lent, c'est compliqué, et que les innovations technologiques, c'est un peu plus magique, en fait, ça arrive et ça propose une solution à tout. Alors que ça, dans l'histoire, on le voit bien, c'est-à-dire qu'il faut reconfigurer les usages, par exemple, les affaires de réut. Alors, c'est sûr qu'il y a un énorme engouement en
réut,
France.
Réut, c'est réutilisation. Mais ça fait...
Ah oui, pardon. Réutilisation des eaux usées traitées, puisque de toute façon, ces eaux, elles sont déjà traitées, mais avec des traitements plus poussés pour permettre un réusage plus direct. Et ça doit faire l'objet de tout un travail réglementaire, en fait, pour définir ces catégories d'eau, parce qu'il y a des enjeux sanitaires, etc. Et puis, par rapport à l'exemple qui a été donné avec le cas de Barcelone, c'est justement le cas d'une ville qui est en bord de mer. Or, ce qu'il faut voir, c'est que, quand même, dans la plupart des situations continentales, les eaux usées traitées, c'est pas vraiment des eaux perdues. Elles alimentent de nombreuses rivières et elles contribuent en particulier à leur débit d'étiage estivaux. Et donc, du coup, je pense qu'il faut pas se tromper, en fait. C'est pas forcément un nouveau gisement d'eau. Alors, même si ça peut être intéressant, parce que ça peut être vu comme un moyen, par exemple, de resserrer, de recréer du lien entre des sociétés urbaines et périurbaines et des eaux qui ont été historiquement évacuées le plus loin possible. Et puis, cette réutilisation des eaux usées traitées, comme toute innovation technologique, et en particulier, Christophe le disait tout à l'heure avec le cas de l'énergie, c'est que ça porte quand même souvent le risque de ce qu'on appelle les effets rebonds. C'est-à-dire que certes, peut-être qu'il y aura un gain marginal d'efficience, mais ça peut se traduire par une augmentation globale de l'usage de la ressource. Et ça, par exemple, ça a été observé dans de nombreux endroits du monde, y compris en France, mais aussi en Espagne, et voilà, Maroc, Australie, en Inde, en Chine. C'est le cas, par exemple, avec ce que les auteurs ont appelé le paradoxe de l'efficience d'irrigation. En gros, on passe à des techniques d'irrigation plus localisées et in fine, il y a une augmentation des surfaces irriguées.
Là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, ces usages ne viendraient pas remplacer de l'eau qui se raréfierait, mais viendraient s'ajouter à potentiellement un usage qui est déjà important. Mais là-dedans, on voit bien que cette question de la sobriété, elle est centrale. Et comme vous nous le disiez l'un et l'autre, on est dans des fractures, dans des percussions de modèles, si je puis dire. Mais est-ce que l'un est exclusif de l'autre, Sarah Fernandez?
Non, c'est pas exclusif, mais je pense que il est important d'accompagner en fait toute innovation technologique d'une réflexion en fait autour du pour relever l'innovation institutionnelle, pour penser en fait quelle place en fait cette technologie elle va vraiment occuper dans le système, ce qu'elle va permettre ou pas, les incertitudes aussi qui peuvent lui être associées, parce que voilà, au moment où elle a plutôt un statut de promesse. Alors c'est vrai que c'est pas complètement le cas avec le cas de la réut, puisque on dit ça a été développé ailleurs, hein, en Espagne, mais aussi au Maroc. Mais d'ailleurs, en fait, je pense que ce serait quand même intéressant d'aller voir vraiment les chiffres et voir ce que ça concerne. Et je pense que le cas de Barcelone en bord de mer est un peu particulier.
Oui, on imagine
parce que la mer, elle a pas de porte-parole, elle a pas vraiment la mer de porte-parole très structurée. structuré pour râler, en fait, du fait qu'on va aller enlever de l'eau, je sais pas.
Après, c'est effectivement, il y a d'autres méthodes, hein, type les usines de désalinisation. On parle aussi d'utiliser des formes de big data, enfin, pour piloter cette ressource en temps réel. Le président de la République, à l'époque de ce plan eau et de sa présentation, parlait d'un éco-watt en temps réel de l'usage de l'eau, qui à ce jour n'existe pas. Christophe Defeuillet, ça dit quelque chose, en fait, de la manière dont on a gaspillé cette ressource?
Ça dit surtout le fait qu'on reste dans une logique un peu industrialiste et moderniste. C'est-à-dire qu'on se dit on va résoudre tous les problèmes avec la technologie. Et en fait, on voit bien, par tout un tas d'indicateurs et tout un tas d'éléments, que, comme on vient de le dire, c'est une solution probablement extrêmement partielle à la situation, et que de toute manière, on ne va pas réussir à résoudre durablement la situation de l'eau et monter, créer, organiser une politique publique stable, cohérente et à peu près efficace, juste en rajoutant des techniques à droite à gauche. Il faut faire autre chose, il faut organiser différemment, il faut représenter l'eau différemment, il faut que l'eau ait une autre place dans nos sociétés.
Parce que contrairement, c'est quoi sa place aujourd'hui? Qu'est-ce qui est né de cette loi de l'eau en 1964? Comment on la pense?
En fait, on vient d'une situation, comme vous l'avez indiqué, qui a été créée dans les années 60. La politique de l'eau a été créée dans les années 60, qui visait en fait à augmenter les quantités d'eau produites et utilisées parce qu'on manquait d'eau. On manquait pas d'eau qui tombait du ciel, mais on manquait d'eau parce qu'on n'avait pas assez d'infrastructures. Et donc, on a été dans une logique de créer des infrastructures, des circuits financiers, moderniser, équiper. Il y a juste un chiffre qu'il faut peut-être rappeler, c'est au milieu des années 50, 41% de la population française n'avait pas accès à l'eau potable. C'est énorme. 41%. Et essentiellement dans les zones rurales. Donc évidemment, là, on avait vraiment une nécessité d'équiper notamment les communes rurales. Et donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur les investissements, sur les équipements, sur les technos. Mais c'était vraiment dans un autre contexte et dans un contexte où on avait beaucoup d'eau et on s'intéressait pas aux questions de limites et de limitation de la ressource en eau. Là, on est dans un...
La question ne se posait même pas, j'imagine.
Voilà. Ça se posait pas.
La projection même d'une possibilité de limitation n'était pas encore au programme.
Et donc, en fait, maintenant, on est dans une situation où on touche aux limites. Donc, l'eau, c'est pour ça qu'on représente différemment l'eau maintenant. Donc, on verra tout à l'heure sur les questions de biens communs, etc., j'imagine. Ça veut dire que on est dans un contexte qui est complètement différent. Donc intuitivement, je dirais, on va pas résoudre des problèmes complètement différents avec les mêmes solutions que par le passé. Ça me paraît un peu contre-intuitif, quoi. Oui. Même si, les solutions, on l'a dit 10 fois, on va continuer à les utiliser.
Sarah Fernandez.
Oui, alors c'est vrai que cette loi sur l'eau de 64, elle a instauré une gestion de l'eau par bassin, donc du coup, qui cherchait à dépasser, on va dire, des limites administratives plus classiques pour épouser davantage les logiques de la circulation de l'eau. Et c'est aussi un système un peu particulier parce que on parlait tout à l'heure là de pénurie, et en fait c'est que il y a pas mal d'auteurs qui ont montré en fait déjà tous les débats, les négos qu'il y a eu autour de cette loi, et surtout que c'était alors on peut dire pour les pêcheurs il y avait un problème lié à la pollution et à la mortalité piscicole avec plutôt une valeur on peut dire substantive, mais il y avait aussi pas mal d'ingénieurs du Commissariat général au plan qui se poser alors des problèmes un peu plutôt de pénurie d'eau de bonne qualité, de dire on veut industrialiser, urbaniser largement la France, est-ce qu'à un moment donné, une vision un peu plus instrumentale quand même, est-ce qu'à un moment donné en fait la qualité d'eau va pas être un problème? Donc quelque part c'est pas un manque au sens de mètres cubes, mais par contre c'est des mètres cubes avec une qualité quand même suffisante pour pouvoir après la potabiliser, etc., et accompagner ce développement industriel, comme le disait très bien Christophe, dans une logique plutôt d'industrialisation, etc. Et après c'est un système un peu particulier de mécanique fine, un peu de construction de consentement qu'il y a autour de ces comités de bassin et des agences de l'eau.
On y reviendra justement. Christophe Defeuillet, vous vouliez réagir.
Sur les technologies aussi, il y a une question importante, c'est que Évidemment, tout ça, ça va coûter extrêmement cher.
Et qui va payer?
Et qui va payer les problèmes de financement? On a des gros, gros problèmes de financement de la politique publique de l'eau actuellement, en termes de quantité d'investissement et en termes d'orientation, de qui paye ces dépenses, avec un poids très important de qui pèse sur les ménages. On peut continuer à multiplier les innovations, mais probablement ça va encore augmenter les dépenses et ça va encore augmenter les besoins d'investissement.
Pour juste se faire une idée, le prix du mètre cube d'eau classique, si je puis dire, c'est autour de 4 euros. Ouais. Pour une eau usagée, retraitée, c'est autour de 10.
Au mètre cube.
Au mètre cube, tout à fait.
Et donc, voilà, ça, il faut aussi considérer ça dans une situation où les finances publiques ne sont pas vraiment très florissantes et il faut vraiment essayer de réduire au maximum l'impact sur les ménages de ces dépenses.
Vous écoutez Douce France par Nora Amadi sur France Culture.
Thierry Burlot est le président du Cercle français de l'eau et du comité de bassin Loire-Bretagne. Il revient sur la nécessité de repenser justement la gouvernance et penser ce bien commun dans un moment où ces enjeux pourtant centraux sont, selon lui, largement éclipsés. On écoute.
On vient de fêter les 60 ans de la loi sur l'eau du 16 décembre 64 et qui dit trois choses extrêmement importantes. La première chose, c'est que le fleuve, ça se gère de l'amont vers l'aval. Ce qui paraît évident, sauf que dans la vie politique du pays, on a plutôt utilisé les fleuves pour séparer les territoires. Et on se rend compte que ce périmètre hydrographique a une vraie existence, n'a aucune légitimité administrative. Et ça, c'est l'une des premières difficultés de la loi sur l'eau de 64. La deuxième chose que la loi de 64 a dit, je crée de la démocratie participative autour de ce sujet. Parce que je pense qu'on ne peut y arriver que collectivement. Donc c'est ce qu'on appelle les comités de bassin, les parlements de l'eau. Et ce parlement de l'eau, il réunit les services de l'État, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, agriculteurs, industriels, etc. Et les acteurs dits non économiques, qui regroupent les consommateurs et les associations de protection de l'environnement. Et ces comités de bassin ont une responsabilité d'écrire la politique de l'eau tous les 6 ans. À travers ce qu'on appelle un document de planification qui s'appelle le stage. Alors ce travail, il est fait, mais malheureusement, on écoute peu les recommandations qui sont rédigées, qui sont votées dans ces documents de planification. Et la troisième chose que la loi a fait, c'est qu'elle a décidé de créer des agences financières sur la base d'une redevance que chacun paye à partir de l'eau du robinet, pour faire simple. Et ces redevances servent ensuite à aider à la mise en place d'assainissement dans nos collectivités et d'amélioration de la qualité de l'eau. Alors ce système, il a très très bien fonctionné pendant 60 ans et il a permis de moderniser notre pays autour de ce que j'appelle le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire l'eau du robinet et l'assainissement. Et dans le même temps, on est rattrapé par le dérèglement climatique avec des conséquences extrêmement lourdes du point de vue financier, sur ce que j'appelle le financement du grand cycle de l'eau, c'est-à-dire le fleuve. Et on s'est rendu compte, ces dernières années, que finalement, même en France métropolitaine, où on pensait être à l'abri de ces questions-là, l'eau n'est pas inépuisable, elle est fragile, il va falloir la ménager, et surtout, il va falloir la partager et être solidaire. Et tout ça, ça nécessite des investissements très lourds, une prise de conscience de ce qui nous arrive. Et on se rend compte qu'au moment où la tension est là, que le partage de l'eau, ça va devenir un vrai sujet à traiter dans les territoires. Donc plus que jamais, on a besoin d'imaginer une nouvelle loi sur l'eau qui parle de ce dérèglement climatique et de la nécessité de construire collectivement ce que j'appelle des contrats de gouvernance pour permettre de concilier protection de l'environnement, santé publique, agriculture, industrie, bref, c'est un vrai sujet politique qui nous est posé aujourd'hui.
Il y a quand même des instances où toutes toutes les parties prenantes sont représentées. Vous-même, vous avez piloté une forme de médiation autour des bassines de Sainte-Soline qui ont donné lieu à des affrontements extrêmement violents. Et pourtant, cela n'a rien donné. Qui est responsable de cette impasse ?
Il faut faire attention parce que ce qui s'est passé là pourrait très bien se passer ailleurs. Si on ne gère pas le partage de l'eau dans les territoires, on peut aller à la catastrophe. Et je pense que plus que jamais, on a besoin d'un État fort, mais on a besoin aussi de collectivités territoriales mobilisées autour de ce sujet. Et aujourd'hui, on doit faire face à des sujets de qualité d'une ampleur peut-être jamais connue. Je vous parle pas des PFAS, je vous parle pas des pesticides, je vous parle pas des CVM. Tous ces sujets-là, évidemment, sont d'une importance pour les collectivités territoriales qui sont en charge d'apporter au robinet une eau de qualité. Donc, ce que je pense en effet, c'est qu'il faut qu'on trouve dans tous les territoires de France des lieux de médiation et de partage de ces sujets. Il nous faut imaginer des solutions qui passent évidemment par des solutions fondées sur la nature, pourquoi pas par du stockage, mais en tout cas, ça devra se faire dans la transparence d'une gestion publique de ces sujets et avec une vraie ambition de ménager cette ressource en eau. Et pour avoir vécu une médiation sur Sainte-Soline, médiation qui avait quand même abouti à une motion votée en comité de bassin Loire-Bretagne, à l'unanimité des membres du comité de bassin, c'est-à-dire élus, agriculteurs, associations. Cette motion, elle disait quoi ? Elle disait, pourquoi pas du stockage de l'eau, mais dans certaines conditions, multi-usage, transparence de l'action publique, transition agro-environnementale, sortie des pesticides, réduction des intrants, mais malheureusement, cette motion est restée pour l'instant lettre morte. Ce qu'il faut surtout, c'est une vraie volonté politique, et je dois aussi le dire, du courage. La question de l'eau, c'est pas qu'une question environnementale, c'est une question de vision pour son territoire. Donc, à partir de là, il faut trouver et mettre en place les conditions de ces contrats de gouvernance entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne pour gérer ces fleuves, gérer ces bassins versants. Et il faut que l'eau reste un bien commun. Alors, moi je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, j'ai envie de dire, c'est d'être à la hauteur de nos anciens qui avaient imaginé cette loi de 64. Il faut qu'on soit capable d'impulser une nouvelle dynamique. Pourquoi pas une nouvelle loi qui conforte la gouvernance hydrographique, c'est-à-dire qu'il faut écouter les fleuves, il faut écouter cette planification parce qu'elle est encore une fois essentielle. Il faut qu'on retrouve des marges de financement. Et là, nous venons de réaliser une étude sur le financement de la politique publique de l'eau en France. Aujourd'hui, c'est 23 milliards d'euros par an. Les experts nous disent que pour être à la hauteur des enjeux du dérèglement climatique, il faudrait en rajouter 13 milliards. 13 milliards pour être à la hauteur de la directive cadre européenne sur l'eau. Parce que je vous rappelle qu'au moment où je vous parle, on n'a que 30% des masses d'eau conformes en France. Donc 70% des masses d'eau non conformes. Donc il y a un vrai travail à faire. Mais là, encore une fois, on ne fera pas contre, il faut faire avec l'ensemble des acteurs.
Voilà, c'était Thierry Burlot, président du Cercle français de l'eau et président du comité de bassin Loire-Bretagne. Sarah Fernandez, est-ce que vous souscrivez à ce qu'il nous a dit ? Est-ce qu'on est au bord, finalement, d'une guerre de l'eau avec ces conflits d'usage qui se multiplient ?
Alors, moi, je... Bon, les guerres de l'eau, en fait, il y a une espèce d'imaginaire autour, un peu finalement, de guerre interétatique. Et c'est assez intéressant de voir un peu dans l'histoire, parce que c'est quelque chose qui avait été déjà très débattu dans la littérature et dans typiquement les instances plutôt internationales dans les années 80 et 90. Et pour justement dire, mais non, en fait, on a plutôt affaire à des conflits territorialisés, ramifiés, qui peuvent faire appel à des moments, à des formes quand même de violence, parce que bon, ben, il y a le cas de Sainte-Soline, il y a eu le cas de Sivens avant, il y a eu aussi le cas problématique de Caussade, etc. Et donc ces conflits d'usage, ils s'inscrivent dans l'espace. Mais pas que. Et ça, on le voit bien dans ce qui a été dit avant, c'est-à-dire aussi, c'est des luttes entre des politiques publiques concurrentes à différentes échelles. C'est des oppositions aussi de ceux qui vont considérer qu'ils sont les perdants de choix publics, qui vont considérer aussi illégitimes les formes de préemption du futur que ces choix opèrent, c'est-à-dire vers quoi ils nous amènent. Et si on reprend en fait le cas du stockage hein, en particulier, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'on a affaire quand même à des prélèvements qui sont aujourd'hui assez peu gouvernés et sûrement difficilement gouvernables. Et donc du coup, sécuriser l'accès, ça revient le plus souvent à l'augmenter et du coup avec de nouveaux risques de tension les années sèches en particulier, dans un contexte de nouveau régime hydroclimatique où justement, en fait, les sécheresses se multiplient. Il y a aussi des enjeux de légitimité, on l'a dit déjà un peu avant, je pense, Christophe, c'est parce que si on veut construire, je sais pas, dans les règles de l'art, c'est des équipements très coûteux et qui sont donc aussi financés par d'autres, parce que les usagers bénéficiaires, en l'occurrence agricoles, ils sont pas le plus souvent assez rentables pour le financer seuls. Et après, en plus... ces équipements, c'est de la maintenance, etc., etc. Et aujourd'hui, l'argument de ces projets, de ceux qui sont en faveur, c'est un peu de dire, ben, finalement, il faut faire une réallocation artificielle pour corriger celle du climat. En gros, il y a des droits d'eau historiques qui peuvent plus être en pratique activés, alors qu'à production constante, ben, l'évapotranspiration, elle augmente. OK, mais le risque, en fait, c'est qu'il y a un très fort risque d'invisibilisation des perdants. Parce qu'il y a des usages qui vont être rendus plus difficiles par ce nouveau stockage, voire plus coûteuses ou impossibles, parce que les nappes se rechargent moins, le cycle de l'eau s'accélère, etc. Et la connaissance et la surveillance des usages, encore une fois, elle est quand même assez peu développée. Et du coup, les usages pénalisés, ben, ils auront du mal à démontrer leur préjudice. Et juste, je voudrais, si vous voulez bien, c'est qu'en plus, ça pose la question... de savoir quel type d'agriculture on soutient, alors que la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite en 2030 et que voilà, la
c'est là aussi on, c'est l'industrialisation, ouais, ça implique on voit des, effectivement qu'on est sur des percussions de modèles, hein, une confrontation de modèles, mais les conflits d'usage, je pense également à Vittel, à Volvic, à Grigny, à Montagnac, des habitants qui dénoncent aussi la privatisation. Pardon, de sources au profit de multinationales, que ce soit Nestlé, Coca-Cola. C'est aussi les golfs qui ont, depuis 2019, la possibilité, toujours même en cas de sécheresse, de pouvoir arroser leurs greens. En fait, on voit bien que ces conflits, ils vont même au-delà des méga-bassines et qu'on est parfois dans, non pas des micro-usages, mais en fait, tout ceci peut prendre des formes assez... assez complexe et pluriel, mais Christophe Defeuillet, est-ce que, à défaut de trouver des instances qui puissent permettre ces logiques de partage équitables et transparentes, on aura affaire à une multiplication de ce type d'événements ?
Alors, je n'ai pas vraiment de boule de cristal, donc je ne pourrais pas vous dire, mais probablement, il y a des fortes chances que, si ça continue comme ça, oui. On aura d'autres conflits d'usage. Donc, comme le disait Thierry Burlot, il faut absolument trouver des lieux de médiation et des solutions pour avoir des partages de l'eau qui soient équitables. Sur les conflits d'usage, il y a quand même, si on regarde ça un peu d'un point de vue analytique, c'est intéressant parce que c'est à la fois un symptôme d'une politique publique qui craque complètement. Puisqu'on a des acteurs qui sont pas d'accord et qui en viennent parfois à des manifestations très très violentes et qu'on n'arrive pas du tout à apaiser. C'est aussi pour avoir un peu plus d'espoir et être un peu plus optimiste. C'est aussi la manifestation du fait que on est en train de changer de représentation de l'eau. Le fait qu'il y ait des gens qui se disent ben comme vous avez indiqué sur les golfs ou sur l'eau en bouteille ou sur les agriculteurs, en disant bon bah en fait c'est des gens qui pour des raisons diverses, hein, si je veux pas les pointer du doigt, qui exploitent l'eau comme on le faisait dans les années 70, dans le même modèle expansionniste, modernisateur que dans les années 70, ça introduit maintenant des interrogations, des conflits et des remises en cause. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne partie de la population et qui sont aussi médiatisées par des institutions qui poussent à la mise en œuvre d'un autre modèle et d'une autre représentation de l'eau. Donc ça, c'est quand même bien.
C'est là qu'intervient le concept que vous posez l'un et l'autre de commun, de bien commun. Ça veut dire que là où tout ceci n'avait pas forcément de valeur, puisqu'on pensait qu'elle était illimitée et presque gratuite, hein, parce que 4 euros le mètre cube, alors ça peut représenter beaucoup, mais en fait, ça, pour plein de gens, ça n'a pas forcément de valeur, si je puis dire. Ça veut dire que là, on est en train de changer de paradigme et que cette notion de bien commun est en train de s'infiltrer. Vous faites le lien avec notamment les remunicipalisations de la distribution de l'eau, alors qu'il ne se passe pas forcément au niveau des communes, mais plutôt des intercos. Vous faites ce lien-là?
Oui, parce que si vous regardez ce mouvement de municipalisation, alors pour les auditeurs, peut-être qu'il faut expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que en France, on était dans une situation d'exploitation de la distribution de l'eau qui était très majoritairement, privée, avec des compagnies d'eau qui exploitaient 75% à peu près des réseaux d'eau en France. Et on a maintenant beaucoup de collectivités locales qui reprennent en régie directe leur réseau d'eau. Il y en a beaucoup. Hein, la collectivité qui a lancé un peu ce mouvement, c'est Paris. Et depuis, il y en a beaucoup. Bordeaux, Lyon et Rennes, Brest, beaucoup de collectivités. Et à chaque fois qu'elles remunicipalisent, leur moto, si on peut dire, leur ligne directrice ou la raison pour laquelle la légitimité qu'elles vont la manière dont elles vont légitimer ce mouvement, c'est le fait de dire que l'eau est un bien commun qu'il faut préserver et que donc c'est naturellement la gestion publique de l'eau qui va pouvoir préserver ce bien commun.
Ce qui veut dire que on est quand même dans un changement de paradigme, y compris dans les collectivités. Ouais. Sarah Fernandez, est-ce que ça veut dire que, à l'aune de ce changement, de cette conception de l'eau comme un bien commun, il va falloir qu'on revoie les espaces de gouvernance qui sont les nôtres?
Alors, oui, peut-être, si vous me le permettez, je trouve que c'est dans ce que disait Christophe, en fait, sur la question des conflits, hein, c'est qu'on voit bien aussi que ces communs ou ces communalités, ça contient toujours des dimensions coopératives et conflictuelles. Et qu'au fond, le dissensus, c'est aussi un signe de vitalité. Après, évidemment, faut pas que ça devienne un monde violent en permanence et que ça, on est bien d'accord. Mais que ça, c'est une affaire.
Je sais pas si on peut dire effectivement de Sivens et de Sainte-Soline que c'est un signe de vitalité. Pourquoi pas?
Voilà. C'est une position. Non, loin de moi. Au contraire, là, je pense que c'est un signe d'impasse. Mais il y a d'autres situations où, en fait, il y a la mise en place de négociations et qui passent par du conflit, mais sans qu'on se tape dessus, en fait. C'est pas nécessairement que la violence, voilà. Et que ça, c'est une affaire autant d'État, de collectivités et de riverains propriétaires aussi, d'ailleurs, enfin, en tout cas, dans l'histoire dont on hérite en France, et de mobilisation sociale, et puis voilà, d'acteurs économiques, etc. Et l'eau dans les territoires, en fait, c'est-à-dire ce grand cycle de l'eau, hein, je pense que c'était Thierry Boulot qui en parlait, le grand et le petit cycle de l'eau. Ce grand cycle de l'eau, lui, eh ben, on a affaire à une eau qui est toujours assez fugitive, en fait. Elle est très distribuée dans l'espace. Elle fait l'objet d'interdépendances à différentes échelles. Par exemple, du ruissellement entre deux parcelles contiguës à la riveraineté partagée des eaux courantes qui vont traverser toute une série de propriétés. Donc, c'est un peu la question aujourd'hui des parlements du Rhône, etc.
Et alors, faut peut-être expliquer, quand vous dites le parlement du Rhône, ou le parlement de la Loire qui a aussi existé, ça veut dire que il y a des structures qui se sont lancées, notamment sur des dynamiques citoyennes, pour imaginer des espaces démocratiques qui puissent penser, notamment des droits à la nature, entre autres, et avoir toutes les parties prenantes autour de la table. Mais est-ce que c'était pas l'objectif aussi des agences de l'eau? Enfin, c'est-à-dire que ça, les institutions étaient censées penser aussi ces espaces?
En fait, quand même, c'est quand même, si on regarde sur l'histoire en France, on a eu affaire plutôt, depuis le 19e, en gros, une appropriation, privée des eaux de pluie ou de source, avec des servitudes. Pour les rivières, c'était différent parce que l'eau, elle était accessible à de multiples riverains. Et après, des débats qui ont duré quand même près d'un siècle, hein, pour les cours d'eau non domaniaux, il faut voir. Hein. Ça a été d'accorder un droit d'usage aux propriétaires riverains. Donc, c'est quand même lié à la propriété, mais c'est un droit d'usage qui est régulé, etc., etc. Alors que, par exemple, en Espagne, Espagne, puisque le cas espagnol a été présenté tout à l'heure, il y a une domanialisation beaucoup plus importante, c'est une étatisation en fait. Donc finalement, on a construit des formes de communalité comme un peu une collection d'individus plutôt propriétaires du foncier, solidaires du nom, parce que elle les relie quand même malgré eux, et avec des formes d'obligations réciproques. Et donc du coup, c'est un peu ça en fait qui est rediscuté aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à construire des alternatives un peu, je sais pas, on pourrait dire à ce modèle de l'individualisme peut-être libéral qui négocie ses droits et délègue son pouvoir de décision. Et c'est un peu ça, je pense, qu'incarnent ces parlements. Et aussi avec toute une réflexion des juristes de l'environnement autour de est-ce qu'on donne une agentivité un peu juridique à des cours d'eau, par exemple. Bon, mais ça, voilà, c'est plutôt les juristes. Et juste, moi, j'aimerais, parce que, par exemple, sur la question des services d'eau potable, il y a des situations qui sont restées complètement hors des radars. Alors évidemment, elles sont très minoritaires. C'est des associations loi 1901 qui gèrent des réseaux d'eau potable, qui étaient un peu dans le blanc des cartes de cette grande politique un peu de développement des réseaux d'eau potable et d'assainissement après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, qui ne sont pas non plus des régies, voilà, et qui posent quand même aussi beaucoup d'enjeux de pérennité aujourd'hui par rapport à la qualité et à la quantité.
À la qualité et quantité, et quand on voit effectivement la nécessité d'investir largement pour la remise en état de ces réseaux, on le disait en ouverture. Christophe Defeuillet, quel est le bon niveau? Est-ce qu'il faut revenir à... je sais pas, un système de bassin versant, est-ce que ça doit se passer au niveau des intercommunalités? Est-ce que ça doit revenir à une gestion plus étatique avec aussi, on le sait partout, le risque d'avoir des lobbies quels qu'ils soient qui viennent en mode droit de tirage percuter une décision collective?
Moi, je crois que la politique de l'eau actuellement, elle est en plein bouillonnement, si on peut dire. C'est quand même très très intéressant parce que en fait on a dans une politique publique pour une fois en France qui est pas complètement dirigée par l'État, centralisée, l'État jacobin, etc. Et on a un certain nombre d'initiatives locales qui sont en train de transformer profondément le secteur de l'eau et notamment en essayant de promouvoir une représentation différente de l'eau qui est l'eau comme un bien commun. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir des perspectives sur des manières différentes de gérer l'eau. Donc on verra bien où est-ce que ça va arriver, comment on va déboucher. Mais au moins, il y a un petit espoir de quelque chose qui peut changer et qui, avec des acteurs qui sont très mobilisés, avec une volonté politique, comme l'a dit Thierry Burlot, de changer les choses et d'avoir un vrai impact sur la ressource. Donc, à mon avis, c'est vraiment une très bonne chose.
Oui, Sarah Fernandez, vous avez des exemples, me dit-on, rapidement.
Oui, par exemple, parce que voilà, pour dire qu'on part pas de rien. Hein. Par exemple, la loi sur l'eau de 2006, elle a conféré aux commissions locales de l'eau un pouvoir réglementaire. Et donc, nous, on avait mené une enquête. Et par exemple, dans l'Est lyonnais, ça a permis de rediscuter, au fond, au final, d'interdire un nouveau prélèvement dans la ressource pour un industriel agroalimentaire quand même très important. Sur notre territoire, la règle, quelque part, elle n'a pas survécu à l'argument des emplois que ça allait créer, etc. Donc du coup, tout ça pour dire que ça dépend. Et puis qu'il y a des expérimentations aussi dans le Gers actuellement, par exemple autour de la protection des zones de captage, qui cherche à vraiment rassembler un peu l'ensemble des acteurs et à promouvoir vraiment des solutions à la source, quoi. Donc après, c'est long et voilà.
Oui, mais on voit bien qu'il y a des tentatives d'expérimentation, oui, de nouveaux espaces démocratiques plus horizontaux, avec une dimension aussi de transparence où les collectivités ou les élus ne sont qu'une partie des parties prenantes. Et c'est ça aussi qui est intéressant à observer.
Alain Carignon a été condamné pour avoir...
La gouvernance de l'eau est centrale donc dans nos modes de vie. Cette importance est amenée à se renforcer ces prochaines années avec les conséquences du réchauffement climatique. Et la chose n'a pas échappé aux auteurs de récits d'anticipation. Bonsoir Antoine Dulster.
Bonsoir Nora, bonsoir à tous.
Dans votre chronique cette semaine, vous vous penchez sur les liens entre eau et pouvoir dans les dystopies.
Oui Nora, et pour évoquer ces dystopies, il faut d'abord partir du réel avec le souvenir d'une affaire très médiatisée il y a 30 ans. L'affaire Carignon, une affaire de financement occulte de la vie politique. Et au cœur de ce système, une entreprise de distribution d'eau.
Alain Carignon a été condamné pour avoir monnayé avec la Lyonnaise des Eaux l'attribution du marché de l'eau à Grenoble. Alain Carignon reste pour le moment en liberté car il a décidé de faire appel. Mais d'ores et déjà, Michel Destot, le maire actuel de Grenoble, a fait savoir qu'il envisageait de dénoncer le contrat de l'eau accordé par la ville à la Lyonnaise des Eaux.
Alors, ce qu'on pouvait relever dans cette affaire, c'était la centralité de l'eau dans les systèmes qui régissent concrètement nos existences. Comme l'air, l'eau est indispensable à la vie, son acheminement et sa distribution structurent jusqu'aux formes de nos villes, ce qui fait des entreprises qui en ont la charge des cibles idéales pour la corruption. Les récits dystopiques se sont emparés de ce constat, très différemment évidemment selon les époques et les registres. Dans la bande dessinée, il faut évoquer Les Eaux de Mortelune, grand récit post-apocalyptique des années 80, signé Kotias et Adamov.
Dans un Paris en ruine, noyé sous une neige rouge et acide, quelques survivants s'affrontent pour le pouvoir. Le pouvoir, c'est le secret de la vie éternelle et la propriété d'un réservoir d'eau encore très pur sur une planète à l'agonie.
La maîtrise du cycle de l'eau structure le pouvoir politique dans ce récit à la tonalité très noire. Même schéma dans plusieurs grands classiques de la science-fiction au cinéma. Et d'abord dans Fury Road, un récent volet de la série Mad Max. Dans une scène qui emprunte au code des grands rituels collectifs, le personnage du méchant, Immortan Joe, ouvre les vannes d'un réservoir gigantesque d'eau sur une foule en transe et passablement déshydratée.
Je suis votre rédempteur! C'est par ma main que vous renaîtrez sur les cendres de ce monde. Ne tombez pas, mes amis, dans la dépendance à l'eau. Elle fera de vous des esclaves et vous lui reprocherez qu'elle vous manque.
Voilà, un appel à la parcimonie hein, pour rappeler de façon assez vicieuse qui est le patron. L'eau est donc présente partout, en creux, dans les dystopies qui imaginent sa disparition à l'image du monde dévasté, décrit par l'écrivain James Graham Ballard dans Sécheresse en 1964. Et lorsque l'eau ne disparaît pas, elle envahit et détruit le monde tel que nous le connaissons. C'était le propos du film Waterworld, le blockbuster un peu mégalo hein, de Kevin Costner en 1995. Cette eau devient alors synonyme de mort. On rejoint avec ce film une autre préoccupation majeure, non pas la disparition de l'eau, mais sa pollution. Écoutez ce que disait sur ce sujet un grand scientifique, Haroun Taziev, en 1974. Il réagissait à la projection d'un autre film d'anticipation apocalyptique, Soleil vert.
Pour moi, ce ne sont pas des mythes. Ce sont malheureusement des visions assez effrayantes, effroyables, d'un avenir qui est tout à fait possible. La pollution gagne le bien le plus précieux de l'humanité, qui est l'eau. Et on en parle dans le film de la pénurie d'eau. L'eau douce, qui est quelque chose d'essentiel, l'eau douce en Belgique, pays voisin du nôtre, l'eau douce commence à être un problème en Belgique, et pourtant Dieu sait s'il y pleut.
Alors Christophe Defeuillet, la maîtrise de l'eau comme fondement du pouvoir politique dans toutes ces dystopies, est-ce qu'on risque d'y arriver? On entendait à l'instant l'avertissement d'Haroun Taziev qui se basait lui sur des éléments bien concrets et bien réels. On sait que les dystopies sont toujours des avertissements qui nous sont lancés, qui partent bien du réel.
Ça existe déjà il y a des conflits entre différents États pour la maîtrise de l'eau, notamment sur les questions des barrages. On risque d'avoir la multiplication de ce genre de situations et de conflits et d'utilisation de l'eau comme étant une arme géopolitique comme une autre pour influencer. Je reviens un peu sur ce que vous avez dit. Il y a aussi un livre de Robinson qui s'appelle Mars Rouge qui traite aussi de cette question-là, de l'impact de l'eau comme un outil de terraforming de Mars, et c'est aussi dystopique et c'est assez intéressant.
Ah, c'est un thème qui inspire effectivement les écrivains. Alors, Sarah Fernandez, même question pour vous. On y vient à ce monde de dystopique dans lequel finalement l'accès à l'eau, le contrôle de l'eau, eh bien, est la clé de notre destin politique.
Ben, j'espère pas. Je sais pas quoi vous dire. Enfin, quand même, je tiendrai, voilà, même si c'est pas parce qu'il n'y a pas de référent historique que ça peut pas venir dans le futur, mais quand même, je reviens vraiment sur cette idée de, il y a quand même beaucoup de travaux qui ont dit au début des années 90 que les analystes pouvaient montrer que même entre l'Inde et le Pakistan, entre le Sénégal et la Mauritanie, en fait, qui étaient souvent les cas qui étaient, ouais, évidemment, la vallée du Jourdain, qui étaient les cas en fait qu'on mettait en avant pour dire ben regardez en fait l'eau entre États c'est compliqué et ça peut conduire à des conflits armés. Des analyses un peu plus fines ont montré que c'est pas l'eau qui expliquait quand même les conflits. Alors après c'est sûr qu'au début des années 90 on est plutôt dans une ère où quelque part la pacification elle va se faire par la fluidification du marché mondial etc etc. Donc je pense que c'est toujours intéressant de se reposer la question, de dire voilà pourquoi est-ce qu'à un moment, à ce moment, en ce moment, on repose des questions de souveraineté, de risque, etc. Je suis pas en train d'être constructiviste. Là. Je sais bien qu'il y a de nouvelles limites, mais je pense qu'il faut quand même un peu voilà réfléchir de vraiment à de quoi on parle quand on parle de conflit, à quelle échelle et voilà, parce que est-ce que c'est des voilà jusqu'à quel point c'est des affaires d'État ou des affaires plus locales, etc. Tout ça, ça se négocie et voilà. Et donc bon après, mais effectivement, moi, c'est sûr que Soleil Vert, en vous écoutant, j'y ai pensé avant d'entendre Haroun Taziev. Et mais en fait, ce qui manque à Soleil Vert, c'est de la nourriture hein, aussi. D'ailleurs, là, pour le coup, c'est une forme de circuit fermé un peu terrible, mais.
Mais alors là, on a parlé dystopie, mais du coup, on a envie de se projeter vers des formes d'utopie concrètes. On évoquait tout à l'heure ces logiques de Parlement de la Loire, d'Assemblée populaire du Rhône, ces nouvelles pratiques aussi qui impliquent de sortir un peu de nos imaginaires, de redessiner ces usages en se disant, bah tiens, si on mettait les riverains, les pêcheurs au centre, tous ces gens qui vivent autour de la rivière, du fleuve, et non pas seulement ceux qui la possèdent, qui possède le cours d'eau qui l'exploite. Est-ce que c'est ça, Sarah, dont vous parlez quand vous parlez de communauté hydrosociale? Ça voudrait dire redessiner nos catégorisations, oui. Même administratives, sortir peut-être des départements et retrouver ceux qui vivent au bord du fleuve comme communauté?
Oui, je pense que c'est peut-être aussi ce que voulait dire Thierry Burlot quand il parlait de nouveaux contrats, en fait, hein, quelque part, c'est bien un nouveau contrat hydrosocial et où du coup, même la catégorie de ressources, elle peut quand même aussi être rediscutée, puisqu'évidemment, l'eau, c'est aussi des paysages, c'est des milieux écologiques, etc. Donc, c'est une ressource, mais pas que. Mais après, je pense que, voilà, de toute façon, ça doit partir effectivement de dynamiques locales et situées qui sont en prise en fait avec ces matérialités. Et en particulier, là, il y a tout un débat aussi autour de l'élargissement de la notion de commun aussi finalement, enfin, aux non-humains quoi, ou aux autres plutôt, parce que c'est un peu problématique de les définir par la négative, aux autres qu'humains quoi. Et c'est un peu ça, le Rhône, la Loire, etc. Et ces parlements. Mais après, je pense qu'aussi, de toute façon, ces affaires, elles sont de toute façon à différentes échelles, parce que bah, surtout on le voit hein, en fait sur les questions agricoles, en fait les mondes agricoles ils sont pris aussi dans des économies, dans des enjeux et des contraintes en fait très fortes quand même, qui sont liées à la manière dont se sont organisées les politiques sectorielles ou encore les marchés. Quoi. Ouais.
Et justement, voilà. On parle aussi d'une forme de bio-régionalisme, un courant de pensée qui est né en Californie dans les années 70, qui propose de redéfinir nos espaces politiques, non plus en fonction des frontières administratives, mais en partant de leur habitabilité et de leurs ressources naturelles, notamment l'eau. Est-ce que, Christophe de Feuillet, il faut s'autoriser à aller vers ce type d'utopie concrète en 30 secondes?
Bah, en 30 secondes, je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Et on est en train, tous collectivement, de se réapproprier l'eau. Faisons confiance, on met l'imagination au pouvoir et probablement, il y a des choses intéressantes qui vont déboucher.
Bon, ben voilà, mettons l'imagination au pouvoir. Merci à tous les deux, Sarah Fernandez, Christophe Defeuillet, d'avoir passé votre vendredi soir avec nous. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission, à Margot Page qui l'a réalisée. À la technique ce soir, c'était Mineta Jawara et Anthony Thomasson. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et à l'envi sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, commenter, réagissez par mail sur les réseaux sociaux. On vous lit, on vous répond. On se donne rendez-vous vendredi prochain à 20h. Et d'ici là, très bon week-end évidemment sur France Culture.